Bienvenue aux Apatrides Anonymes, édition du 9 mars 2023, en direct des studios du Studio A, principal de choc.ca. De retour après plusieurs semaines dans le petit studio B, dans le Cajibi, on pourrait dire, quasiment.
Préenregistré en plus.
Mathieu au micro, je suis avec Marianne. Bonjour Marie-Ève.
Bonjour, bonjour.
Bonjour Simon.
Allô.
Donc oui, on a été absent aussi en plus il y a deux semaines. Donc on a plein de contenu. Ça, soyez attentifs et attentives. Ça va être intense, mais on va essayer de parler pas trop vite et de vous expliquer comme il faut les choses. Donc, sur les ondes de choc, oui, sur les ondes de Radio Victoria aussi, les mercredis et dimanches. Vous pouvez aller sur notre page, sur le site de choc pour toutes nos émissions anciennes et les émissions futures. On donnera toutes les coordonnées à la fin de l'émission. Donc aujourd'hui, toujours dans les enjeux de frontières, racisme, immigration, droits humains, politique, quand même beaucoup aussi. On parlera pas vraiment de Amira El Gawabi. Non.
Non, c'est correct.
Je vous recommande seulement un texte sur pivot.québec qui s'appelle « L'islamophobie n'existe pas, mais elle tue » de Niall Ricardo. Très belle synthèse sur les enjeux de fond sur cette question-là. Heureusement, l'ingérence chinoise et les délires à la SAAC nous ont sauvés de cette suite de débats interminables et imbuvables.
Ben oui, ça a commencé avec les ballons.
Oui, les fameux ballons, les ballons. On parlera pas de Christine Anderson, la députée d'extrême droite allemande que trois députés conservateurs ont rencontré sans se rendre compte que c'était...
Que c'était elle.
On va parler un petit peu du délire de Roxane dans quelques instants. Sinon, on peut aussi parler beaucoup d'enjeux autochtones aujourd'hui, autant au niveau judiciarisation, réappropriation... au niveau territoire, au niveau des femmes autochtones. On va parler aussi de racisme anti-noir et de d'autres enjeux sur le racisme. On va parler aussi à l'international, Simon va nous parler de la France et des États-Unis. Il y aura l'agenda, évidemment, des prochaines semaines et de la musique, entre autres, de Atsuka Shiba, de John Spencer and the Hitmakers et aussi de Black Oaks Orchestra. Donc, bienvenue aux Apatrides Anonymes. Donc, je vous parle de quelques enjeux en immigration Québec-Canada pour mettre la table avec cette actualité foisonnante. Donc, il y a eu toutes les niaiseries qui ont été dites sur le chemin Roxham, dont le tout inclus du Bloc québécois, l'ultimatum de Poilievre de 30 jours, le chef du PLQ Tanguay qui a comparé PSPP à Donald Trump, les nombreux articles sur les organismes communautaires qui débordent, les reportages sur les logements insalubres, particulièrement à Montréal pour les demandeurs d'asile, les agents américains qui se mettent de l'argent dans les poches en amenant des migrants à la frontière, la ville de New York qui paye des billets d'autobus, l'ambassadeur américain dit qu'il n'y a pas de renégociation de l'entente des tiers pays sûrs, le fédéral qui amène de force de plus en plus massivement les migrants en Ontario et ailleurs. D'ailleurs, sur les enjeux de Roxham, pour clôturer cette partie-là, je vous recommande un autre article de cette fois-ci dans le journal Métro qui s'appelle « Voici pourquoi il est difficile et peu souhaitable de fermer le chemin Roxham ». C'était le 10 février. Donc, derrière cet écran de fumée, il y a d'autres informations qui sont passées dans le beurre, Marie-Ève.
Ben oui.
Le nombre de réfugiés en provenance de la Turquie a fortement augmenté au cours des dernières années. Leur nombre a bondi de 80 personnes en 2020 à plus de 5500 en 2022. Une hausse qui surprend même la communauté turque de Montréal et Québec. Ouais. Après les Haïtiens à 9000, les Turcs constituent le deuxième groupe le plus important qui est entré par le chemin Roxham depuis en 2022. Ils effectueraient à peu près tous le même périple. Ils arrivent par avion au Mexique depuis la Turquie, franchissent la frontière américaine à El Paso, au Texas, puis remontent jusqu'au Québec. Ils peuvent aller au Mexique sans visa. Donc, c'est aussi ça l'enjeu.
OK, oui, mais c'est pas pire de détour quand même.
Oui, pas pire de détour. Comme les Haïtiens qui vont au Brésil pour remonter, là.
Ouais. Mais il n'y aurait pas un programme spécial qui pourrait être annoncé, étant donné les tremblements de terre?
J'y arrive, Simon. T'es bon. Ils sont pour la plupart kurdes, des Turcs kurdes, une minorité ethnique qui fait l'objet de plein de discriminations à grande échelle en Turquie. On a déjà parlé. Selon les chiffres de la Commission de l'immigration, depuis 2018, 96% des ressortissants turcs, donc kurdes, qui ont effectué une demande, ont été acceptés au Canada. Donc, le taux est très fort. Sinon, dans les autres nouvelles, le ministre fédéral de l'immigration, Sean Fraser, a déclaré que le Canada pourrait accélérer les demandes d'entrée au Canada des victimes des récents tremblements de terre en Turquie et en Syrie. Okay. On parle de millions de sans-abri actuellement dans les deux pays. Aussi, le ministre s'est défendu à plusieurs reprises récemment de la possibilité que McKinsey ait pu déterminer certaines orientations de son ministère lors de son témoignage devant le comité parlementaire chargé d'enquêter sur les contrats fédéraux à cette firme privée. On parle surtout de l'intention d'accepter 500 000 immigrants par année d'ici 2025 qui est relié à McKinsey. Sinon, ben, le nombre de mineurs seuls ou de mineurs non accompagnés, Marie-Ève, qui trouvent refuge au Canada est passé de 23 en 2020 à 115 en 2022.
Leur nombre c'est une grosse augmentation.
Oui, c'est avec le nombre aussi de gens passage qui demandent l'asile, de passer à la frontière, exactement. Leur nombre est tel que 10 travailleurs sociaux se consacrent désormais à eux, au programme régional d'accueil et d'intégration des demandeurs d'asile, le PREDA, qu'on connaît. Sinon, les députés fédéraux ont adopté récemment une motion destinée à favoriser l'accueil de réfugiés ouïghours qui ont fui la Chine et qui continuent d'être persécutés dans d'autres pays. Le texte vise à accélérer l'entrée au pays de 10 000 Ouïghours et autres musulmans turciques ayant besoin de protection pour une période de 2 ans à compter de 2024. Actuellement, il y a 3 000 personnes d'origine ouïghour au Canada seulement. Sinon, peut-être une dernière petite nouvelle. Pendant que le gouvernement Legault soutient que la capacité d'accueil du Québec est de 50 000 nouveaux arrivants par année, le nombre d'immigrants temporaires acceptés sur le territoire québécois continue d'augmenter sans grand bruit. Les plus récentes données suggèrent qu'ils sont désormais plus de 325 000 dans la belle province. Ce groupe inclut à la fois les travailleurs étrangers, les étudiants étrangers, les demandeurs d'asile. Mais 325 000, puis on dit qu'on peut pas en avoir plus que 50. On connaît le discours, là. Donc, quelques nouvelles en bref, en vrac, pour ce premier micro sur... puis j'en avais un autre que je garderai peut-être pour tantôt, sur l'immigration ici, au Québec et au Canada. Donc, Marie-Ève, je te passe la parole. Tu vas nous parler d'enjeux autochtones sur le territoire.
Oui, territoire qu'on appelle Nitassinan chez les Innus, Nitaskinan chez les Atikamekw et Yuichi chez les Cris, pour ne nommer que ceux-là.
Ouais.
On le sait, le territoire est au cœur des identités, des cultures et des histoires autochtones. Et donc, les revendications territoriales sont vraiment un enjeu majeur là des luttes autochtones pour l'autodétermination et la réappropriation, dont je vais vous parler, donc, de ces luttes-là, de quelques-unes de ces luttes-là. Je commence par la Côte-Nord, où les Innus et les communautés non-autochtones de la Mingani se battent pour protéger la rivière Magpie des ambitions du gouvernement provincial et d'Hydro-Québec d'y construire de nouveaux barrages. Parce que même si Hydro-Québec affirme avoir aucun projet officiellement, en tout cas, de barrage sur la Magpie, la puissance de son cours est convoitée, alors que de l'autre côté, ben, le gouvernement du Québec, de la CAQ, souhaite augmenter la puissance hydroélectrique de la province. Fait peu connu, en 2021, le Conseil des Innus d'Equanichit et la MRC de la Mingani ont déclaré la rivière Magpie personnalité juridique.
Ouais.
C'est la première fois qu'un élément naturel obtient ce statut-là au Canada. Et aux côtés de la MRC et du Conseil des Innus se tiennent aussi la Société pour la nature et les parcs et l'association Eau vive Mingani. On peut donc voir que la protection de la rivière Magpie a dépassé depuis longtemps là, les frontières de la seule communauté des Quanichit, qui est située à 180 km à l'est de cette île. Au-delà des besoins énergétiques, le gouvernement et Hydro-Québec évidemment brandissent l'argument économique en faisant miroiter là, les futures redevances pour les communautés autochtones qui, bon, faut le reconnaître, en auraient bien besoin. Mais le préfet de la MRC, Luc Noël, et le chef du conseil de bande, Jean-Charles Pietachaud, eux autres sont pas dupes et y croient pas. Selon eux, les quelques barrages vont rapporter de l'argent pendant les travaux, mais après, plus grand-chose. Et si on regarde l'expérience de la rivière romaine, ben ça tend à leur donner raison. Je cite Monsieur Noël, il dit tout ce que ça a fait la romaine, comme mon grand-père dirait, c'est de mettre un plaster sur une jambe de bois. Ça paraît bien un plaster sur une jambe de bois, mais ça la guérira pas.
Ça sert à rien, hein?
Non, c'est ça. Ou encore le chef Pietachaud, lui, à l'époque, quand je me suis opposé au projet de la romaine, les gens disaient que je travaillais contre l'économie et le développement. Aujourd'hui, ses maires me disent que j'avais raison.
Exactement. Ouais.
Et il y a un autre exemple vraiment actuel, celui-là, qui semble leur donner raison, et c'est celui du barrage de Muskrat Falls au Labrador, également en territoire Innu. Je vais essayer d'être le plus clair et simple possible parce que les enjeux sont un petit peu complexes. Je fais d'abord un retour en arrière. En 2011, les Innus du Labrador ont donné leur aval à la construction des barrages de Muskrat Falls et de Gull Island. Mais en 2021, les gouvernements de Terre-Neuve et Labrador et du Canada ont restructuré les finances, là, le montage financier du projet de Muskrat Falls pour éviter l'augmentation faramineuse des tarifs d'électricité en raison des dépassements de coûts du barrage. Or, selon Peter Pinachou, le négociateur et ancien chef de la Nation Innu du Labrador, cette restructuration-là réduit de façon draconienne les revenus promis aux Innus.
Mm-hmm.
Parce que selon l'entente initiale intitulée « Chash Petapen », qui veut dire « un nouveau départ », les Innus devaient recevoir environ 6 millions de dollars par an pendant la construction des installations. Une fois les travaux terminés, les Innus auraient eu droit à 5 % des bénéfices annuels du projet ou 6 millions de dollars par année,
mm-hmm.
selon le montant le plus élevé.
Ouais.
Mais en vertu de la restructuration budgétaire là, du projet par la province et Ottawa, le barrage s'annonce peu rentable pendant environ 3 décennies. Et en plus, il y a une partie de l'argent versé aux Innus pendant cette période-là va être considérée comme un prêt qu'il faudra rembourser à Hydro et Terre-Neuve-Labrador avec intérêt.
Ben oui.
Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est que sur 50 ans, les revenus promis aux Innus auront diminué de 1 milliard de dollars par rapport à ce qui leur avait été promis en 2011.
Dans l'entente.
Ouais. Exactement. Donc... c'est sûr que en 2021, la Nation Innu avait essayé de bloquer là cette nouvelle restructuration là des finances du projet Muskrat Falls en Cour suprême de Terre-Neuve-Labrador, mais elle a finalement annulé sa poursuite parce que Ottawa et la province ont annoncé de nouvelles consultations avec le gouvernement autochtone qui représente les 3000 Innus de Chichachiou et de Natwashish.
Mm-hmm.
Peter Pinachou, lui, affirme que les négociations ont rien donné et que les Innus du Labrador ne permettront jamais la construction du barrage de Gull Island tant que la question épineuse, faut le dire, des revenus du projet de Muskrat Falls sera pas réglée.
Non, Gull Island n'est toujours pas construit, comme tu
non,
dis.
Non, c'est ça, mais là, ils mettent un frein puis ils disent, là, on va commencer par régler cette histoire-là.
Puis il y a l'histoire de Churchill Falls que les Autochtones ne sont pas dans le coup dans la négociation entre le Québec et Terre-Neuve. Hein?
Exactement.
Puis ils demandent à être là aussi, fait que, oui, gros dossier, Marie-Ève, sur...
Qui va être à suivre, en tout cas, dans les prochaines années.
Ouais, exactement. Fait qu'on passe à quelques notes de musique.
Yes.
Et on revient avec la suite de ton spécial Territoire autochtone.
Puis, en plus des projets énergétiques, les projets miniers comptent évidemment parmi les principales menaces à l'intégrité des territoires ancestraux des peuples autochtones. En Ontario, au moins une bonne note aujourd'hui, la communauté Anishinaabeg de Long Lake, qui est située à environ 300 km au nord-est de Thunder Bay, vient de remporter une rare victoire contre l'industrie minière. Le gouvernement de la province a émis une ordonnance pour interdire l'exploration minière sur les territoires de près de 1000 km² pendant les 3 prochaines années.
Mm-hmm.
Donc concrètement, l'ordonnance suspend là, toutes les opérations de prospection, d'enregistrement de concessions minières, ce qu'on appelle les claims, de même que la vente et la location de parcelles sur ce territoire qui est grand comme 2,5 fois l'île de Montréal. La décision survient dans le contexte des négociations en cours entre l'Ontario, le Canada et la Première Nation Anishinaabeg de Long Lake en vue de régler une revendication de titres autochtones par la Première Nation. Le ministre des Mines, des Ressources naturelles et de la Foresterie de l'Ontario, lui, juge que cette décision-là devrait faciliter les négociations. Mais c'est toutefois pas la première fois que l'industrie se retrouve bloquée comme ça en Ontario. Juste l'année dernière, en 2021, la Cour supérieure de la province avait aussi temporairement interdit l'exploitation minière dans le territoire de la communauté Ojibwe de Ginogaming, qui est située à une dizaine de kilomètres de la communauté de Long Lake.
OK, à côté.
C'est juste à côté. Mais au début de février, la Première Nation Ginogaming a retiré sa demande d'injonction permanente contre l'industrie, contre l'exploration minière, parce que les permis d'exploration, des entreprises visées par l'injonction sont venues à échéance en 2022 de toute façon. Mais la Première Nation se dit prête quand même à retourner devant les tribunaux si les minières décidaient d'entamer des démarches auprès du gouvernement ontarien pour renouveler les permis.
Réactiver les permis.
Exact.
Ouais.
Puis parallèlement, la Première Nation entend aussi poursuivre ses démarches judiciaires pour que l'Ontario reconnaisse son territoire comme un lieu sacré afin que les claims miniers qui y sont associés puissent être invalidés.
C'est des traités qui traînent, qui sont pas clarifiés. Hein,
exact,
c'est ça.
Ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Je vais clore ce bloc-là sur une sur les revendications territoriales en me tournant vers le Nouveau-Brunswick.
Oui, parfait.
Cette fois-ci, où à la mi-février, les 8 premières nations Mi'kmaq de la province ont publiquement revendiqué 80% du territoire, rien de moins.
De la province, oui. Ouais.
Essentiellement, elles revendiquent les terres de la couronne et celles qui appartiennent à des grandes entreprises. Elles revendiquent aussi un accès aux eaux limitrophes dans le détroit de Northumberland et dans la baie de Fundy aussi.
Ben oui.
Mais elles revendiquent pas les propriétés des particuliers. Qu'est-ce que ça implique au juste, cette annonce-là? C'est que selon une décision de la Cour suprême du Canada qui date de 2004, ça change en fait les obligations de consultation des gouvernements. En gros, cette décision-là a dit que dans le cas des droits potentiels, pour qu'il y ait déclenchement d'une obligation de consulter et de consentir à certaines revendications, il faut que le gouvernement ou la couronne soient au courant de la revendication ou en aient nécessairement été au courant.
Okay.
Et donc, dans ce cas-ci, le gouvernement du Nouveau-Brunswick, ben là, pourra pas prétendre ne pas être au courant de la revendication. Je vous donne un exemple. Si le gouvernement du Nouveau-Brunswick, par exemple, allait de l'avant avec des modifications importantes des territoires revendiqués, comme par exemple des copas blancs,
ouais,
ben il se retrouverait dans l'obligation de consulter la Première Nation. Puis s'il le fait pas, ben ce serait à la Cour possiblement de juger si on a respecté ou non l'obligation de consulter et d'accommoder aussi la Première Nation en question. Puis pour ce qui est des terrains des grandes entreprises qui sont revendiqués, ben là on parle plus d'une indemnisation plutôt que de ravoir la propriété
d'expropriation.
En tant que telle.
Ouais, ouais.
Par contre, ce qui risque de compliquer un peu les négociations avec le gouvernement provincial là-dessus sur cette revendication là de territoriale là, de 80%, c'est que les revendications des Mi'kmaq ressemblent beaucoup et chevauchent même là parfois celles des 6 des 8 communautés de la Première Nation Wolastoqué, qui ont entrepris en 2020 des démarches juridiques pour faire reconnaître leurs titres territoriaux sur presque la moitié du Nouveau-Brunswick. Mais, puis en plus, ben il y a les revendications territoriales de la Première Nation d'Elsipoktog, qui a revendiqué en 2016 un territoire dans la région sud-est du Nouveau-Brunswick qui couvre, elle aussi, près de 30% de la province. Fait qu'en tout cas, ça risque d'être un peu compliqué. Puis j'imagine qu'il va y avoir évidemment des discussions, des pourparlers là, les diverses communautés autochtones ancestrales, outre qu'avec le gouvernement néo-brunswickois.
Puis tout ça dans un contexte que le gouvernement veut relancer l'exploration du gaz
de schiste. Des gaz de schiste, oui. Ben ça, j'aurais pu vous en parler
c'est
aussi,
ça, mais
c'est
le contexte qui fait que les Premières Nations se revendiquent beaucoup. Ces
exact,
aussi.
C'est ça.
Donc, merci Marie-Ève pour ce panorama.
Ouais,
il manquait une couple de provinces, mais...
Non, c'est ça, mais j'aurais pu en parler. Il y avait d'autres couches dont j'aurais pu vous parler, mais on gardera ça pour les prochaines fois.
On fera une suite pour d'autres provinces puis d'autres situations. Merci. Donc, c'était sur les revendications territoriales. On va aller en musique avec un ensemble de Montréal. Ça s'appelle le Black Oaks Orchestra, la pièce Scotchney. de la belle musique aux apatrides de Zanonyme. C'était le quatuor Black Oaks Orchestra, la pièce Scotchney, de leur album Everything Returns, sorti en décembre dernier sur Constellation, leur premier en 16 ans. C'est un groupe de Montréal qui est assez légendaire dans le son de Montréal des années 2000-2010, surtout 2000 dans leur cas. Ils sont dans le palmarès Globe de Choc actuellement. Et pour ceux et celles qui les connaissent, un peu plus mollo qu'à l'époque, sont plus retournés vers la musique traditionnelle klezmer. Mais c'est quand même assez bien senti. Et on a eu la chance, Marie-Ève et moi, de les voir à leur concert lancement au Musée du Montréal Juif en décembre. Et je rappelle les membres, Thierry Amar, Scott Gilmore, Gabriel Levine et Jessica Moss. Donc voilà pour cette... C'était en quelle langue, Simon?
C'était pas en Wolof, en tout cas c'était en Yiddish peut-être.
En Yiddish, voilà, exactement.
Puis moi, ça me rappelait peut-être des soirées au Café Sarajevo à l'époque.
Oui, là. Tout ouais. à fait, t'as raison. Ouais, mais un mélange de ouais, musique des Balkans. Donc voilà, fait que c'était la première pièce de l'émission. On va poursuivre avec Simon, que vous avez entendu, avec quelques nouvelles de France et des États-Unis.
On commence avec la France, où celle qui agit à titre de première ministre depuis quelques mois, la très beige Elisabeth Borne, aucun lien avec Geneviève Borne, présentée il y a quelques semaines.
Oh là là!
Ça commence fort.
Oui, oui.
Présentée, pardon, il y a quelques semaines, son plan national 2023-2026 de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine. Donc déjà, on note que l'islamophobie qui est galopante en France ne mérite pas la même place que l'antisémitisme, qui mérite sa place, lui, en France, c'est assez galopant aussi. Donc, même pas mentionné l'islamophobie dans le titre du rapport, et je crois très peu ou pas du tout dans le corps du rapport. Donc, pour le reste, je vais me référer surtout à un article de Human Rights Watch qui a décortiqué le plan d'action pour nous, qui est décrié pour plein de raisons évidentes. C'est le Festival des omissions involontaires.
Okay.
Ou volontaires.
Oui, c'est ça.
Par exemple, aucune référence à l'héritage colonial dont sont directement issues les discriminations systémiques ou institutionnelles en France. Quelques bonnes intentions exprimées à propos des discriminations au logement, à l'emploi, à l'accès aux services, mais aucun mécanisme prévu de collecte et d'analyse des données, ce qui est essentiel si on veut vraiment comprendre plus finement pour ensuite proposer des mesures ciblées avec des objectifs clairs. Aucune mention dans le plan de Mme Borne du profilage racial par la police, phénomène qui, selon les données des dernières années, se maintient en France, malgré les rapports officiels qui s'accumulent année après année. Ça nous rappelle d'autres endroits.
Oui,
je sais pas où.
Résistance,
450, ouais. Montréal, en tout cas. Avec, comme toujours, des recommandations qui sombrent dans l'oubli jusqu'au prochain rapport. Non plus comment les plaintes seraient reçues et traitées, c'est pas mentionné dans le plan d'action. Au niveau du financement, on reste dans un flou assez artistique. Aucune référence au plan d'action de l'Union européenne contre le racisme qui est supposé avoir été mis en œuvre par les États membres au plus tard en décembre 2022.
OK.
Et évidemment, on oublie de parler de possibles réformes des institutions. Bref, un bel écran de fumée bleu-blanc-rouge.
Beau plan d'action, hein?
Et peu après l'annonce de ce beau plan d'action, comme tu dis, Mathieu, notre préféré, Gérald Darmanin, présentait son projet de loi Asile et immigration. Et là, attention, ça fesse beaucoup plus que dans les vœux pieux de Mme Borne.
Oui, il est un peu plus offensif, lui, oui.
Oh, oui, on n'y va pas avec le dos de la cuillère.
Le dos de la main morte, oui.
Il y a déjà un collectif d'une bonne cinquantaine d'associations, de syndicats, et différents groupes de pression qui ont signé une lettre dont le titre est « Non à la loi Darmanin », avec appel à manifestations qui ont déjà eu lieu d'ailleurs dans plusieurs villes françaises et on entend poursuivre la mobilisation dans les semaines, les mois qui suivent. La CIMAD aussi est particulièrement inquiète et lance la campagne « Non à la double discrimination envers les femmes migrantes ». Vous pouvez voir ça sur lacimade.org. On s'inquiète beaucoup de certaines différenciations de métiers qui seraient jugés plus critiques et les métiers jugés moins critiques, ça provoquerait des situations plus précaires, particulièrement pour les femmes.
Okay.
Donc, avec ce projet de loi, on parle carrément de négation radicale des droits fondamentaux des migrants, des migrantes, de systémisation et de radicalisation des pouvoirs des préfectures, et donc, genre de décentralisation des pouvoirs. Donc, c'est les administrations régionales en France, les préfectures, donc, qui pourront rendre des décisions en lien avec les OQTF, les obligations de quitter le territoire, et les IRTF, les interdictions de retour sur le territoire français. Mathieu, tu connais bien tes acronymes.
Oui.
On vient donc renforcer le rôle, non seulement répressif, mais aussi, en général, broche à foin et arbitraire des préfectures dans les dossiers des migrants, préfectures qui sont souvent contrôlées par les Républicains ou carrément le Rassemblement national de Marine Le Pen, qui n'auront pas juste du pouvoir sur les interdictions de territoire, mais aussi sur les assignations à résidence et sur la gestion des centres de rétention,
donc
les prisons pour migrants. Deux dossiers à suivre, mais je pense pas que le joli plan d'action de Mme Borne contre le racisme va vraiment mener à du concret et encore moins à apaiser la colère provoquée par le projet de loi anti-migrant de son collègue Darmanin. Mmh. On passe directement aux États-Unis.
Hey, vas-y, t'as parlé de républicains à l'instant, fait que c'est parfait.
Ah, ben oui, hein, ben oui. Toujours des liens. Oui. Merci Mathieu. donc aux États-Unis, où il se passe à peu près la même chose, on peut dire ça, on durcit le ton face aux migrants. Toujours très populaire auprès de ses bases de dédentés, comme diraient certains. Donc, l'administration Biden se trumpétise de plus en plus. En fait, on revient pratiquement aux mêmes politiques que celles de la précédente administration.
Ben oui.
On va maintenant refuser tout migrant qui se présente à la frontière sans avoir préalablement fait une demande d'asile en ligne. Donc, on le sait, les personnes migrantes qui fuient la misère et les dangers, souvent à pied, sur les routes les plus dangereuses du continent, elles vont bien sûr d'abord être au courant de cette mesure, je suis ironique, là. Et on sait aussi qu'elles ont un excellent accès à Internet et à tous les papiers dont elles ont besoin pour remplir adéquatement leurs demandes. Je suis encore ironique.
Ils ont beaucoup de données. Oui, oui, oui.
Ils ont beaucoup de données. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois avec tous les potentiels demandeurs d'asile qui sont peut-être déjà en chemin quelque part en Amérique du Sud ou centrale ou au Mexique et qui vont éventuellement rejoindre la frontière des États-Unis? Je sais pas si une fois arrivés, on va leur envoyer la cavalerie équipée de fouets, comme on l'a vu l'année passée ou il y a 2 ans.
Au Rio Grande,
oui. Oui, sur la frontière, c'était Mexique-Texas.
Ouais.
Donc, si je comprends bien, la mesure sera appliquée à partir du 11 mai, alors que sera levé le titre 42 dont on a déjà parlé et qui assouplissait temporairement les mesures frontalières. Évidemment, toutes les associations, dont Oxfam, prévoient une situation encore plus chaotique à la frontière états-unienne, avec des conséquences graves, entre autres pour les femmes et les enfants qui vont s'entasser dans des camps de fortune le long de la frontière ou essayer de la traverser à des points irréguliers, souvent en plein désert. Le sort des enfants à cette fameuse frontière Mexique-États-Unis, on s'en rappelle, ça avait fait beaucoup jaser dans les dernières années, notamment à cause des enfants séparés de force de leurs parents et mis en cage dans des installations qui n'étaient même pas dignes d'un zoo. On remonte à 2018-2019. Ça avait scandalisé le monde entier. On recensait à l'époque environ 4000 enfants prisonniers et isolés de force dans des conditions indignes. On apprenait récemment qu'il en resterait à peu près 1000 des enfants quelques années plus tard qui sont toujours séparés de leurs parents. Ils sont dans les centres de détention du ICE, l'agence frontalière américaine. Il y aurait 200 enfants sur ces 1000-là qui seraient sur le point de retrouver leurs parents et 800 dont le dossier est inactif pour l'instant, alors on n'a aucune idée des délais ou des modalités. Donc, à un moment donné, j'imagine. Autre nouvelle des États-Unis, sa frontière maritime. Cette fois, je parle des Keys, cet archipel au sud de la Floride qui, à cause de la situation extrêmement difficile à Cuba, reçoit des milliers de Cubains en fuite qui arrivent par des toutes petites embarcations très rudimentaires. Juste pour rassurer les gens, je vais relativiser un peu. Même en hiver, ça reste quand même une mer beaucoup plus clémente que la Méditerranée, la Manche ou l'Atlantique vers les Canaries. Mais c'est quand même 180 km de traversée à partir de Cuba. Par rapport aux années précédentes, en 2022-2023, on est vraiment dans une explosion de chiffres, donc 5 ou 6 fois plus, des dizaines d'interceptions chaque jour. Plus de 6 000 interceptions dans la mer des Caraïbes en 2022-2023. Donc, on va probablement dépasser de beaucoup les chiffres des années précédentes. Historiquement, c'est à peu près partagé entre Cubains et Haïtiens, mais là, le ratio est dominé beaucoup du côté cubain dans les dernières semaines et mois. Ron DeSantis, le fameux gouverneur de la Floride, sa réponse est uniquement sécuritaire. Washington a acquiescé à ses demandes d'envoyer plus d'avions, plus de, des avions patrouilleurs, des bateaux de garde côtière. Donc, c'est le plus important déploiement militaire depuis des années dans la région. Je sais pas trop comment... J'ai de la difficulté à imaginer les Keys. C'est un genre de long archipel d'îles reliées entre elles par un genre de pont autoroute, parfois plusieurs dizaines de kilomètres entre des îles. Donc, pour quelqu'un qui arrive à mettre pied sur la terre ferme...
C'est des îles isolées aussi, il y a des îles...
Moi, c'est de la villégiature,
c'est un parc naturel.
C'est ça, donc c'est à peu près impossible d'être un piéton et de se cacher. Et Ce qu'on sait aussi, c'est que les gardes-côtes font passer un test très rapide que à peu près tout le monde échoue et on renvoie vers des pays partenaires, par exemple les Bahamas.
C'est ça. Oh, oui, si c'est des vrais réfugiés, là, c'est ça le test, là? Oui, c'est ça.
Oui, mais ce serait 99 % de refus à peu près.
Exactement.
Donc, ben voilà pour...
Écoute, il t'en restait un peu, on gardera ça pour une autre fois. Puis...
Ben, j'ai édulcoré un peu, donc je peux y aller plus dans le détail peut-être une prochaine fois.
OK, c'est bon, merci Simon. On parlait donc de la France et des États-Unis. Quelques notes de musique et je vous reviens avec des nouvelles sur des enjeux de racisme. Il y en a quelques-uns. Donc, on continue à parler de racisme anti-noir. Ça va être Simon dans quelques instants. Moi, je vais vous en glisser un mot aussi par rapport aux Autochtones. Nouvelle qui est sortie en fin de semaine, à peu près il y a une semaine. Le taux de détention des Inuits dans les prisons provinciales québécoises est 15 fois supérieur à la moyenne provinciale, révèlent les données du ministère de la Sécurité publique du Québec. Environ 4,5% des Inuits vivant au Québec ont été emprisonnés dans un lieu de détention provinciale au cours de la dernière année, s'étant terminé le 31 mars 2002.
Quand même.
C'est assez énorme. Ce taux est près de deux fois supérieur à celui de tous les autres groupes autochtones et beaucoup supérieur à la population générale. On mentionne que les programmes de traitement et d'autres services qui permettent aux gens d'être libérés sous condition ne sont pas disponibles dans le Nord. Il y a aussi le fait que les Inuits ne contrôlent pas la police ou le système judiciaire sur leur territoire, comme le font les autres groupes autochtones. C'est quand même assez important. Yann Lafrenière a référé les questions de la presse canadienne au ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, qui a refusé de commenter. Donc, on commente pas ça. On commente pas ça, ces affaires-là. Sinon, les conditions de vie...
c'est bizarre.
T'en avais parlé, Simon, il y a quelques semaines. Les conditions de vie des détenus autochtones et noirs encore épinglés à Ottawa. Deux comités de la Chambre des communes ont pris pour cible la situation dans les prisons canadiennes dans les dernières semaines. Des députés de tous les partis, y compris des libéraux, ont sévèrement critiqué le système pénitentiaire et même des conservateurs. Je cite un député du NPD. La vérificatrice générale s'échine à dénoncer les conditions auxquelles sont souvent soumis les Autochtones et les Noirs au Canada en prison et les systèmes restent continuellement les mêmes. Dans un rapport publié en 2022, la vérificatrice Karen Hogan a écrit que ce service n'avait pas traité ni éliminé les obstacles systémiques qui continuaient de défavoriser certains groupes de détenus.
Ce que répète année après année l'agence de surveillance des services correctionnels, le gendarme Boudouman.
Tout à fait. J'y arrive à l'instant. Le bureau de la vérificatrice avait soulevé des problèmes identiques en 2015, 2016 et 2017. Le bureau de l'enquête correctionnelle du Canada, justement, Simon, avait constaté dans son dernier rapport dont tu avais parlé que les détenus noirs autochtones sont défavorisés. Il a encore indiqué en commission parlementaire que ces détenus sont victimes de discrimination, de préjugés et de racisme. La commissaire de services correctionnels Canada, Anne Kelly, a reconnu devant le comité permanent des comptes publics l'existence de barrières systémiques et de racisme dans le système judiciaire criminel. Par exemple, elle a reconnu qu'un taux deux fois plus élevé d'hommes autochtones et noirs que d'hommes blancs ont été incarcérés dans des établissements à sécurité maximale, et ça, c'est souvent au bon jugement là, des autorités carcérales. Comme réponse, Service correctionnel Canada a répondu qu'il tente de recruter un commissaire adjoint responsable des détenus autochtones. Sinon, un an après qu'un homme noir a été tué par la police de Calgary, sa famille, ses amis, des membres de la communauté sud-soudanaise et des militants se sont réunis récemment, donc c'était le 19 février, à l'endroit où Ladjar Tuel, 41 ans, a été tué par balle le 19 février 2022. Présente à la cérémonie, la fille de Ladjar Tuel, Nyalingat Ladjar, a déclaré que la brutalité policière continue à être ignorée et que son père n'était qu'une victime parmi tant d'autres. Je la cite, « Il est venu ici, il y a près de 22 ans, à la recherche d'une vie meilleure. C'est un enfant soldat. Il cherchait simplement à échapper à cette situation. » Sa sœur considère que la police a fait preuve non seulement de profilage racial, mais aussi de négligence quant à sa façon de répondre aux personnes en crise. L'adjoint Tuel souffrait de stress post-traumatique et d'autres troubles de santé mentale. La famille attend des réponses de l'équipe d'intervention de l'Alberta en cas d'incident grave, mais sa sœur affirme que celle-ci n'a pas donné de nouvelles sur la mort de son père et le service de police de Calgary a refusé de répondre aux questions pour l'article de la presse canadienne. Je voulais finir, Marie-Ève et Simon, avec une citation raciste. Hein?
Ben, c'est toujours bienvenu.
Toujours bienvenu. Il s'appelle Scott Adams, il est BDiste et il y a une BD sur la vue de bureau qui est publiée dans plein de quotidiens nord-américains au Canada et aux États-Unis. Et il a dit dans son dernier épisode sur YouTube que les personnes noires faisaient partie d'un groupe haineux dont les personnes blanches devaient s'éloigner. Donc, j'ai pas le contexte général de toute la conversation, mais disons qu'il a vite été enlevé d'à peu près tous les médias. Il est impliqué depuis des années. Là.
Il a été victime de racisme anti-blanc.
De racisme systémique à l'envers. Ouais, c'est ça. Donc, Simon, je te cède la parole sur le racisme anti-noir. On continue sur les mêmes enjeux.
Ben, février, c'est le mois de l'histoire des Noirs. On n'était pas très présent, donc un petit peu de rattrapage. J'aurai des exemples de discrimination pour vous. Un lexique et quelques mises à jour de dossiers qui suivent leur cours actuellement. Donc, première mise à jour. La demande de recours collectif de 171 millions de dollars de la Ligue des Noirs du Québec contre le SPVM et la Ville de Montréal au sujet du profilage racial, ce qui prévoirait 5 000 dollars par personne indemnisée. Les audiences préliminaires ont commencé. La mairesse était à la barre avec un témoignage, disons, mi-figue, mi-raisin.
Oh.
Elle a dit que oui, le profilage existe et que les victimes doivent être dédommagées, mais sur une base individuelle et non pas dans le cadre d'une action collective. C'est question de casser un peu l'initiative.
Mm-hmm.
Donc, témoignage qui a été reçu, disons, poliment. Deuxième mise à jour rapide, la mère de Jean-René Junior Olivier, qui, après avoir appris qu'aucune accusation criminelle ne sera portée contre les policiers qui ont tué son fils en 2021.
À repartir.
Eh oui, le hotbed, le hotspot de, en tout cas, bref.
De la brutalité policière, ouais.
C'est ça. Donc, elle a décidé de poursuivre pour 479 000 $ la ville de Repentigny, son service de police et les agents impliqués sur une base personnelle. On se rappelle, elle avait logé un appel au 911 pour qu'on intervienne sur son fils qui était en crise paranoïaque.
Ouais.
Elle avait répété qu'elle avait besoin qu'il soit calmé, maîtrisé et transporté à l'hôpital pour qu'on lui donne des soins psychiatriques. Et on lui a envoyé la police qui a tué par balle de Jean-René Junior Olivier. Troisième et dernière mise à jour, c'est le Talk of the Town, l'incroyable secret de Barbe Noire. La pièce de Frank Sylvestre censurée à Beaconsfield et Pointe-Claire. Je pense qu'on est un peu flabbergasté par la tournure des événements et on va réserver nos commentaires pour une autre fois. Ou non, on verra.
Ou à une invitée éventuelle, oui.
Ouais, c'est ça qui pourra, qu'on laissera parler.
Qui subit le dossier, oui.
Ça nous mène à un petit lexique. Trois vocables à ajouter à votre culture. D'abord, parmi les multiples réactions provoquées par la saga Barbe Noire, une des lettres d'opinion nous parlait de capacité raciale pour agir.
Oui.
Contraction des termes de droit, capacité juridique et qualité pour agir, un concept des années 90. Qui s'appelait le racial standing, qui, si j'ai bien compris, serait un biais de confirmation en faveur ou en défaveur de sa propre origine ou couleur de peau.
Okay.
Mais je pense qu'aucun des apatrides, aucun de nous trois, finalement, a vraiment compris de quoi il s'agissait parce que c'était pas très bien expliqué.
Ouais.
Donc, merci à Pivot.Québec de nous fournir plus d'explications la prochaine fois.
Une suite, s'il vous plaît. Ouais.
Lexique numéro 2, autre terme nouveau pour moi que j'ai vu en faisant notre revue de presse, le colorisme, qui est la discrimination basée sur le teint de la peau. Donc, par exemple, chez les personnes noires, plus ta peau est foncée, plus tu peux te faire, plus tu peux faire face à du mépris ou la discrimination de la part des personnes noires à la peau plus claire.
Okay.
Y a un article Wikipédia sur le sujet en français qui est plutôt mince, mais si vous allez voir celui qui est en anglais, c'est beaucoup plus détaillé avec des exemples, un historique, tout ça.
Okay.
Vous pouvez chercher colorism ou shadism.
OK.
Dernier vocable de mon mini-lexique à ajouter à votre vocabulaire, misogynoire,
oui.
Qui est la discrimination très spécifique que subissent les femmes noires, des stéréotypes, par exemple, d'hypersexualisation, de la femme toujours en colère ou encore de la nounou. Je résume vraiment très vite. Là.
Oui, oui.
J'en profite pour plugger le film « Le mythe de la femme noire » de la réalisatrice Ayana Oshun, qui aborde le sujet. J'ai pas vu le film, mais paraît-il qu'il est vraiment très bon et il est actuellement à l'affiche à Montréal au cinéma public et au cinéma Beaubien.
Il a gagné plusieurs prix, oui.
Ouais, ben j'ai vu en fait la bande-annonce et quelques extraits. Ça a l'air effectivement très bien fait et je pense qu'on pourrait apprendre beaucoup de choses.
Oui.
En début de segment, je parlais de phénomènes qui ont attiré notre attention. J'ai deux exemples dans le milieu de la santé ou des services sociaux. Premier exemple, tout ce qui concerne la DPJ, la protection de la jeunesse, où les données les plus récentes indiquent que les enfants noirs ont deux fois plus de chances d'être signalés et retirés de leur famille que les enfants blancs, donc deux fois plus.
Mm-hmm.
C'est quand même toute une surreprésentation. Donc, c'est pour ça qu'il y a une initiative qui existe depuis quelques années qui s'appelle Option Protection, un projet en partenariat avec le CIUS du centre-sud de l'île de Montréal et qui est composé d'une équipe de travailleurs sociaux issus surtout de la communauté afro-montréalaise. Le but est d'améliorer les interventions de la DPJ auprès des familles noires. Plusieurs centaines d'interventions depuis le début et dans la quasi-totalité des cas, on se rendait compte que la prise en charge des enfants, finalement, ben, elle n'était pas nécessaire.
OK. Oui, je comprends. Oui.
Deuxième exemple, santé, services sociaux. Une nouvelle étude de l'Université d'Ottawa démontre que pour 15 des 20 cancers les plus prévalents au Canada, il n'y a aucune donnée sur les communautés noires, ce qui fait en sorte que le système de santé continue de dépister, de traiter, de médicamenter un peu à l'aveugle sans vraiment savoir si c'est bien adapté ou si ça fonctionne bien. Selon plusieurs chercheurs, on pourrait élargir le principe à l'ensemble des disciplines médicales et des maladies, c'est-à-dire que les méta-analyses démontrent qu'il y a une très grande disparité dans à peu près toute la littérature médicale en ce qui concerne les personnes noires. Donc, on va généralement appliquer, par exemple, aux femmes noires, les conclusions d'une étude dont l'échantillon était des hommes blancs.
Ah oui, OK. Donc, manque de recherche, évidemment. Là,
manque
oui, oui.
De recherche et finalement, manque d'efforts, peut-être.
D'adaptabilité,
aussi
pour,
Ou peut-être que dans les milieux de la recherche et universitaire et médicaux, il manque peut-être aussi de personnes
noires. De personnes
noires,
concernées,
Ou de personnes d'autres communautés. Donc, voilà pour ce segment en retard et incomplet, forcément en lien avec le mois de l'histoire des Noirs, qui est déjà terminé.
Mais les enjeux du racisme anti-noir, on va en parler dans
le
courant de l'année.
12 mois par année.
Exactement. Merci beaucoup, Simon, pour toutes ces informations-là. On va passer en musique. Deuxième pièce, c'est John Spencer and the Hitmakers. La pièce Death Ray, c'est de l'album Spencer Get It Lit, sorti en avril 2022. C'est du blues punk, c'est un groupe de New York. Monsieur Spencer groove depuis 1985 dans plein de projets. On l'a vu aussi, il n'y a pas très longtemps, au bar Ritz PDB à Montréal.
Oui, on a pu se bouger le popotin.
Oh là là!
C'est rock'n'roll et ça bouge, donc Marie-Ève était en grande forme.
Il faisait très chaud.
Il y avait beaucoup de monde au petit Ritz. Donc, on y va avec John Spencer, Death Ray.
All my energies on you. Focus all my thoughts and energies and electricity on you. All my brain power, willpower, flower power, and mind over matter power. All my waking moments, my sleepy time too. Dream a little crazy dream and hit me with your death ray. Come on, shoot. Sense of time. I like it when you shoot. I like it when you shoot so good. Hit me with that death ray. Okay, okay. Whip it on me, baby. Destroy all sense of time.
John Spencer and the Hitmakers dans vos oreilles, la pièce « Death Ray ». Hein? Le vieux est toujours en forme.
Oui.
On va revenir, même si on n'était pas très loin, aux enjeux autochtones. Moi, je vais vous parler de réappropriation ou de tromperie. J'avais commencé la dernière émission à vous parler de Marilyn Lafont, entre autres. L'Alliance autochtone du Québec, qui regroupe notamment des autochtones vivant hors réserve et non inscrits, demandait à ce que le gouvernement québécois la reconnaisse comme un interlocuteur légitime et comme une nation à part entière. Un jugement de la Cour supérieure du Québec a rejeté leur demande. Cette décision a été portée en appel par l'association. Le juge a expliqué que l'AAQ, qui dit représenter une grande communauté d'Indiens non inscrits, descendants des 11 nations autochtones du Québec, n'est pas une communauté qui constitue l'une ou l'autre de ces nations. Son argumentaire se base, entre autres, sur le fait que les fondateurs et les membres de l'AAQ disent avoir des ancêtres autochtones, ça c'est l'argumentaire de l'association, et qu'ils peuvent donc facilement prétendre aux droits dont disposent les membres de ces communautés. En effet, l'AAQ mentionne que pour en devenir membre, une personne doit vivre hors réserve, faire la preuve de ses liens ancestraux avec l'une ou l'autre des nations du Québec et être reconnu et accepté par l'une des communautés locales. Mm. Selon le document de cours, l'AAQ comptait un peu plus de 13 600 membres en 2011. C'est des vieux chiffres, là, mais des experts rappellent que le discours identitaire de l'AAQ a changé plusieurs fois depuis sa création et que son assise identitaire se révèle être très ambiguë. En effet, à ses débuts, l'AAQ associait ses membres aux 11 nations. Par la suite, elle soutenait qu'il formait une nation distincte des autres nations ou qu'il constituait une nation métisse. Et maintenant, elle affirme que ses membres descendent des nations autochtones. C'est revenu à la première chose. Le juge explique que l'AAQ et ses membres n'ont aucun statut officiel et aucun droit particulier entraînant pour le gouvernement du Québec une obligation de négocier et de conclure des ententes avec elle. Depuis de nombreuses années, l'AAQ tentait de faire partie des négociations entre les Autochtones et le gouvernement, mais seulement au Québec. Ils sont vraiment au Québec. Dylan White Duck, de la communauté Anishinaabe de Kitigan-Zibi, merci. Nous ne reconnaissons pas ce groupe et toute activité qu'ils font n'est pas justifiée. La population ne devrait pas aller à cet événement. De quoi il parle? Il parle du Rendez-vous des Nations qui a eu lieu du 1er au 4 mars à Gatineau, donc la semaine passée. Un festival qui est décrit sur son site web comme une occasion de célébrer l'art et les cultures autochtones et qui rassemble les grands noms de la chanson comme Florent Volant et Boom Desjardins. C'est organisé par l'AAQ, évidemment. Je cite Jacques Tewapso, conseiller à Benaki. Il dit la présence d'artistes autochtones au Rendez-vous des Nations est déconcertante. En ayant des artistes reconnus, ça leur donne une légitimité. Mm. Ce sont des gens qui ont un ancêtre autochtone extrêmement lointain, qui veulent juste ce qu'il y a de beau dans nos communautés. Tout le reste, les traumas intergénérationnels, ils n'en ont rien à foutre. Ah. C'est un club social pour jouer à l'Indien. Hein? C'est assez clair. Et Monsieur Dallin Waddock poursuit, l'événement qui se déroule sur nos terres non cédées est inapproprié et inacceptable, a-t-il écrit dans une lettre adressée au président de l'AAQ, Gérard Coulombe, juste avant l'événement. Donc, c'est un peu ça l'ambiance actuellement pour ça. L'autrice-compositrice-interprète Atikamekw Laura Niquet a dit ne pas avoir été mise au courant des critiques existantes envers l'AAQ parce qu'elle devait participer au festival, elle l'a finalement annulé. Le chanteur Boum Desjardins, écoutez ça, membre de l'Alliance autochtone du Québec, affirme se sentir à sa place au Rendez-vous des Nations. Je le cite, tous les artistes qui sont là ont une descendance autochtone. C'est une ascendance qu'on dit, mais ouais, non, c'est quelque ça. Part. Et je le cite, il affirme qu'il a aussi des racines autochtones. La mère de ma grand-mère était une Indienne de Maniwaki. J'ai des amis indiens et je chasse avec eux.
J'ai des amis indiens.
Oui, c'est ça, j'ai des amis indiens. Est-ce que j'ai le temps de terminer, Simon, quelque chose?
Oui, rapidement. Ouais.
L'AQ, on a su aussi, parce que Espace autochtone à Radio-Canada, ils font des enquêtes. L'AQ perçoit du financement de la part du fédéral ces 5 dernières années. Relation couronne autochtone a versé plus précisément plus de 2 millions de dollars à l'AQ. Plusieurs figures politiques autochtones du Québec ont réagi et déplorent que l'AQ reçoive de l'argent fédéral car... pendant que des communautés reçoivent pas grand-chose et les besoins sont très criants. Le ministère fédéral a indiqué que l'AAQ respecte les modalités du programme concernant les critères d'admissibilité des organisations à différents programmes du ministère pour le financement qu'elle reçoit annuellement ou a reçu dans le passé. Donc ça, c'est la réponse du ministère fédéral. En terminant, le ministère assure que la décision de la Cour supérieure du Québec n'a aucune incidence sur la capacité du gouvernement du Canada à reconnaître une organisation comme représentant des personnes titulaires de droits autochtones. Fait que là, il va y avoir un débat évidemment entre la Cour, le fédéral, les nations actuelles et l'Association des Premières Nations du Québec et du Labrador. n'a pas voulu se prononcer.
Ben non, tu m'étonnes.
Évidemment, sur ce conflit. On vous tient au courant pour la suite, parce que ça fait pas les grandes manchettes nécessairement. Marie-Ève, je te passe la parole. Tu veux nous parler de certains enjeux sur les femmes autochtones.
Ouais, ben, revenir un peu là-dessus, parce que sur les femmes autochtones disparues et assassinées, parce que le 14 février dernier avait lieu là à Montréal, la vigile annuelle en soutien justement aux femmes autochtones disparues et assassinées. Il y a ISQUE, qui est le projet de recherche du foyer des femmes autochtones qui organise la vigile. Eux, ils recensent actuellement près de 200 femmes et filles autochtones disparues et assassinées au Québec seulement. C'est plus de 4 fois le nombre estimé par la GRC.
Okay.
Et ironiquement, c'est aussi le nombre de personnes qui s'étaient déplacées pour le rassemblement.
Okay. Okay.
Si l'événement a été l'occasion de rappeler la disparition toujours non résolue de Maisie Ojik et de Shannon Alexander, âgés de 16 et 17 ans. Ils étaient disparus en septembre 2008 à Maniwaki. Leur cas n'est pas unique et le fléau continue de sévir partout au pays. Et pour y faire face et pour agir aussi plus rapidement, la députée néo-démocrate de Winnipeg Centre, Lia Gazan, demande au gouvernement fédéral de mettre en place un système qui enverrait des alertes sur les téléphones cellulaires lorsqu'une femme autochtone est portée disparue. Donc, une alerte robe rouge à l'image de l'alerte Amber pour signaler qu'un enfant a été enlevé ou est considéré comme étant en danger.
Mm-hmm.
La députée affirme que si le public est mieux informé lorsque des femmes et des filles autochtones disparaissent, ben il y a plus de chances qu'elles soient retrouvées. Parce qu'on c'est bien connu, là, quand il y a une disparition, les premières 48 heures sont cruciales. Et plus le temps avance, ben moins on a de chances de retrouver les personnes disparues.
Ouais.
Et donc, Lia Gazan indique d'ailleurs que depuis des années, les défenseurs des droits des femmes et des filles autochtones disparues ou assassinées demandent que la police et les autres intervenants réagissent plus rapidement. Parce que, bon, dans ces dossiers-là, souvent, ils dorment au gaz. Les appels à la mise en place d'une alerte robe rouge au Canada sont pas nouveaux. Il existe là, par exemple, des initiatives à l'échelle locale, comme un site web qui publie des informations et des photos de personnes autochtones disparues. Aux États-Unis, l'État de Washington a mis en place en 2021 un système d'alerte comme ça, qui est déclenché quand une personne autochtone disparaît dans des circonstances inexpliquées ou suspectes, ou lorsqu'elle semble être vulnérable pour des raisons telles que l'âge ou la santé.
Mm-hmm.
J'aurais aimé vous parler aussi du combat d'une femme autochtone de Winnipeg, Cambria Harris, pour récupérer la dépouille de sa mère tuée à 39 ans. Sa mère, Morgan Harris, compte parmi les 4 victimes de Jeremy Skibiki, et dont un seul corps a été retrouvé. Cambria Harris doit faire le deuil de sa mère sans être capable de l'enterrer. Le corps de Morgan Harris se trouverait au fond d'une décharge que la police de Winnipeg refuse toujours de fouiller à ce jour. Mais bon, j'ai pas le temps de rentrer dans le détail de cette histoire-là et de sa lutte, mais je vous invite à aller lire l'excellent reportage de Yasmine Mehdi sur le site de Radio-Canada et intitulé « Le combat de Cambria » pour récupérer la dépouille de sa mère assassinée.
Ouais, j'ai vu le reportage vidéo et le récit numérique qui appelle.
Ouais,
c'était très bon.
C'est dans les récits numériques, ouais, c'est un excellent reportage.
Exactement. Merci beaucoup, Marie-Ève. Il y aurait eu d'autres nouvelles, mais on va prochaine fois. Ouais, c'est ça. Donc, quelques notes de musique et on passe à l'agenda. Ben, femmes autochtones, des femmes artistes, on va continuer là-dessus, Maria. 2 expos. L'expo de l'artiste Mohawk, Crystal Deer, présente sa toute première exposition à la galerie Shekon à Montréal jusqu'au 11 mars. Il reste 2 jours pour les gens qui nous écoutent à Montréal. Elle revisite la grande tradition picturale en remplaçant les humains dans des tableaux classiques par des animaux. Un peu à la... des tableaux classiques là, de grands maîtres. Et on pourrait faire un petit lien avec Kent Mockman aussi. C'est un peu moins... rentre dedans, là, mais c'est un petit peu la même approche. Donc, Crystal Deer.
Tu veux dire que Crystal Deer est moins rentre dedans que Mike.
Exactement. Oui, ça, je voulais dire. Merci de la précision. jusqu'au 1er avril, l'exposition Ishu ou Pataku Ishkoetch Tishtasinu, qui veut dire « Regard de femmes sur le territoire » regroupe les œuvres de trois femmes autochtones originaires de Mastéyache à la Galerie de l'UQAM. Mastéyache, c'est au lac Saint-Jean. C'est Soleil Launière, Marie-Andrée Gill et Sophie Curtness qui ont des styles complètement différents. Et donc, c'est ici à la Galerie de l'UQAM, donc jusqu'à la mi-avril, si ça vous intéresse. C'est des installations surtout. Sinon, ben, Amour et respect du caribou, Ode à la liberté, la première Innu à avoir publié de la poésie en 1995 au Québec, a présenté son dernier recueil regroupant deux ouvrages, Le cœur du caribou et Un jour Madiba m'a dit. C'est donc, il s'agit de Rita Mestococho, poétesse Innu de la communauté d'Equatnichit,
sur la côte nord.
Exactement. C'est donc sorti à Mémoire d'Encrier, aux éditions Mémoire d'Encrier. Donc, le sujet, c'est le caribou d'un côté, cet animal vu comme celui qui a permis aux Autochtones de survivre dans la forêt, et de l'autre, Nelson Mandela comme héros symbolique. Donc, ça vous tente de la poésie, donc, autochtone.
Cette poétesse-là est aussi impliquée dans la lutte pour la protection de la rivière Magpie.
Donc, on fait les liens entre le début et la fin de l'émission, Marie. Le festival Filministe, il y avait une pub tantôt sur les ondes de choc, continue son mandat de valorisation du cinéma des femmes et des personnes sous-représentées. Programmation donc du 8 au 16 mars en salle à Montréal et en ligne. Parmi les sujets, la crise migratoire, c'est entre autres pour des en lien avec les Cambodgiens à l'époque, la pénurie de places en garderie, la musique métal féminine au Liban et la science-fiction féministe sont parmi les sujets abordés dans les longs et courts-métrages, donc le festival Filministe. Sinon, ben le 15 mars, qu'est-ce qui se passe en général?
ACAD!
La Journée internationale contre la brutalité policière. C'est la 27e. La police tue en prison comme dans la rue, le thème cette année. C'est à 18h à Montréal au parc NDG, métro Vendôme. Et dans le même ordre d'idée, le 16 mars, le lendemain, à 18h, lancement du nouveau numéro de la revue Relations, numéro 820. Ça fait quand même quelques décennies que ça existe. Le sujet, la police, deux points, un pouvoir disproportionné. Il n'y a pas de point d'interrogation. C'est le lancement, donc, le 16 mars, à 18h, à la librairie Le Port de Tête, sur Mont-Royal, à Montréal. Et les autrices, auteurs du dossier, prendront la parole pour présenter leurs articles. Un certain Francis Dupuy-Déry, une prof de l'Université de Montréal, Céline Bello, qui est à l'Observatoire des profilages, Ted Rutland, prof à Concordia, qu'on lit aussi dans Pivot, qui est spécialisé sur la police, et Sven Télémac, qui est auteur du livre Pen of a Ready Writer, volume 1, je connais pas. Sinon, dans la même thématique, donc ça, c'est le lancement le 16 mars, pour tout savoir sur la problématique des interpellations policières, la Ligue des droits produit un document qui s'appelle 10 questions-réponses sur l'enjeu. Et aussi, comme individu ou organisation, vous êtes invité à appuyer la déclaration pour l'interdiction des interpellations policières au Québec, qui est sur le site de la Ligue. C'est une déclaration à signer en masse. Et peut-être, je vais terminer avec la nuit des sans-papiers. Quand même, on revient aux enjeux
du mars.
La nuit du 18 au 19, de 19h30 à 9h le dimanche matin, devant les bureaux d'Immigration Canada au complexe Guy Favreau. Le thème, c'est « Laissez-nous sortir du froid et de l'obscurité, arrêtez de nous exclure ». Et cette action a lieu dans le cadre d'une journée pan-canadienne d'action pour un programme de régularisation organisé la journée par Migrants Rights Networks. Et il y avait un article cette semaine dans les médias qui disait que là, le programme serait peut-être en place, annoncé fin du printemps, début de l'été. Il y aurait des consultations avec les groupes actuellement.
Ça a l'air que Trudeau consulte les groupes, ouais, fait des rencontres.
Et le ministre Fraser, ouais. C'est ça. Donc, j'en ai pas parlé tant que ça parce que c'est un peu encore au stade de rumeur, mais donc, c'est à suivre dans les prochaines semaines. Donc, la nuit pour les sans-papiers, donc du 18 au 19 mars à Montréal et des activités partout au Canada cette journée-là. Donc, ouais!
Coupe le sifflet!
Est-ce que tu parlais, Mathieu?
Non, vas-y, continue.
OK, à toi la parole.
Merci. Donc, ben ça va être la fin de l'émission. Là. Avec tout ça, j'ai ma feuille de route revolée. Là. Écoute, je la récupère.
Ça ne servait pas à grand-chose. Tu ne la suivais pas bien, en tout cas.
Pardon?
On se parlera après l'émission.
Ouais, c'est ça, on va faire un petit bilan. Ça va chauffer. Donc, ben voilà, c'est la fin de l'émission, édition du 9 mars. Merci d'avoir été à l'écoute. Donc, pour nous écouter en tout temps, c'est sur le site de Choc, notre page Apatrides Anonymes. Sinon, sur notre site, il y a toutes les émissions aussi, apatridesanonymes.info. On a un courriel apatridesanonymes@resist.ca. Et une page
FB
où on met de l'actualité, on met toutes sortes d'informations, beaucoup d'événements. D'ailleurs, les événements du calendrier sont là si vous avez des choses à regarder, vous n'avez pas tout à fait pris tous les détails en note. Vous dire aussi que, ben, on on est diffusé sur les ondes de Radio Victoria aussi les mercredis et dimanches.
Colombie-Britannique, oui.
En soi-disant Colombie-Britannique. Oui. Et donc, que je vais remercier Simon et Marie-Ève pour tout leur contenu bien serré, bien tassé.
Bien dense, oui.
Trop tassé.
Trop tassé.
Je vous renvoie les merci.
Oui, tout à fait. Donc, merci aux gens qui nous ont écoutés, évidemment. Donc, c'était notre tour dans les studios de Choc après une émission d'absence. Donc, on sera avec vous le 23 mars à 18h30 pour ceux et celles qui nous écoutent en direct. Sinon, sur les ondes d'Internet, peux-tu dire ça?
Non.
Bon, donc, on va terminer avec de la musique. J'espère pas me faire couper par la toune avant que...
Abouti!
Donc, c'est un groupe que je connaissais pas. C'est un quintet de Montréal qui est actif depuis 2012, mais j'avais aucune idée. Il s'appelle Atsuka Chiba.
Atsuko Chiba.
Atsuko Chiba, pardon, avec un K. La pièce Seeds, leur album qui est sorti en janvier dernier, il y a deux mois, qui s'appelle Water, It Feels Like It's Growing. Donc, c'est du progressif psychédélique rock. Et ils vont être en concert demain soir, le 10 mars, à la Sala Rossa avec Mother Tongue, Simon, qui est ton groupe préféré de l'année 2022.
Ah ben oui.
À la Sala Rossa demain soir. Donc, pour ceux et celles qui te cherchent, ça sera là.
OK. je savais pas que j'y serais, mais merci de me le dire.
Donc, on y va avec Atsuko Chiba. Bonne soirée à tout le monde. Merci.
Bonne soirée.
Streams they breathe in, the vibes that are surrounding.